C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle micro-influence et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Camille Poignant.
Salut Thibaut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les casquettes et les sweats foncés, nous sommes avec Thibaut, voilà, un micro-influenceur pour ce type de vêtements.
Donc,
c'est, c'est un truc qui marche très fort.
À retrouver chaque matin sur Twitch. Voilà, effectivement, côté casquette, si vous avez, si vous êtes une marque de casquette, c'est le moment de nous sponsoriser.
Oui.
En tant que micro-influenceur.
C'est un appel du pied.
Oui, après, donc on parle micro-influence ce matin, les micro-influenceurs qui prennent le pouvoir, parce qu'après une petite décennie, à tenter de tirer le plus fort possible sur la corde des partenariats de marque, l'industrie de l'influence, eh bien, elle semble arriver à maturité. Si ça se trouve, en tout cas. Un virage, on a l'impression. Hein. En tout cas, on commence à y voir plus clair sur ce que c'est réellement un vrai influenceur. Hein. On s'est tous mis d'accord pour dire qu'un compteur de followers Instagram n'avait pas de valeur si les followers étaient des faux followers, par exemple.
Oui, ou des concouristes.
Voilà, que le taux d'engagement était au moins aussi important que la portée des contenus.
Oui.
Oui, et on s'accorde aussi tous à dire que maintenant, bah, créateur de contenu, c'est un bon synonyme pour influenceur. Hein. Donc ça,
c'est l'influenceur haut de gamme.
C'est l'influenceur qui crée du contenu. Voilà. Et puis, on commence aussi à faire le distinguo entre trois différentes typologies d'influenceurs, hein, notamment compte tenu de la taille de leurs audiences. Mais on verra que c'est pas qu'une histoire de taille d'audience. Hein. Il y a les nano-influenceurs. Allez, c'est toi, moi,
ouais,
avec nos petites casquettes dans notre
studio. De 0 à 3, 5 000, voilà, chacun l'interprète. Mais en tout cas, des petites communautés très confidentielles.
Exactement. Ensuite, on a de l'autre côté, on va dire, les méga-influenceurs, hein, qui ont des comptes qui rassemblent plusieurs centaines
plus de 100 000.
Voilà, plus de 100 000 abonnés, parfois des millions. Et puis au milieu se trouvent les micro-influenceurs. Alors, il n'y a pas de définition officielle de ce micro-influenceur, mais déjà en termes de communauté, on est quoi entre
on va dire de 5 000 à 50 000 abonnés.
Voilà, à peu près. Hein, si vous êtes dans ce lot-là, si vous êtes créateur de contenu, que vous avez à peu près ça d'audience, bah vous êtes, on va dire, officiellement un micro-influenceur. Eh bien, les micro-influenceurs, hein, ces influenceurs qui comptent moins de fans que les géants, mais plus que les nanos, eh bien, ils parlent, on va le voir, hein, ils ont aussi quelque chose en plus. C'est pas que leurs followers, ils parlent sans doute de manière plus authentique que les très gros. Ils renouvellent aussi un certain nombre de pratiques, d'usages très intéressants pour les marques. Et alors que les consos se détournent petit à petit des publicités traditionnelles ou des messages d'influence un peu trop vulgaires, hein, issus des gros méga-influenceurs, eh bien, les micro-influenceurs, ils deviennent un vecteur de communication incontournable pour les annonceurs. On va décrypter tout ça ensemble ce matin.
Comme tu le dis, hein, ils sont plus authentiques parce qu'ils s'adressent à une plus petite communauté avec qui ils ont l'habitude de parler. Et d'ailleurs, au mois d'août, hein, il y a le magazine Vogue qui parlait d'une nouvelle mouvance, puisqu'on les catégorise chez les influenceurs, le genuine influenceur. Comme le cottagecore prône un retour à la nature, le genuine influenceur, c'est la contraction de authentique et influenceur, prône un retour à l'influence authentique, le vrai partage de sa vraie passion avec ses communautés. C'est quand même là que ça a commencé. On était bon à l'époque. Hein, l'influenceur primitif est apparu dans les années 2000.
Influenceur primitif.
Un peu avant.
Qui écrivait avec de la peinture et ses mains sur son compte Insta.
Mais il écrivait sur un blog. Il écrivait sur un blog avec cet outil, si t'étais sérieux, que tu savais écrire et prendre des photos, il y avait qu'à insister pour prendre ta place. Aujourd'hui, le métier s'est super complexifié. Il y a une vraie demande de connaissances techniques des plateformes, beaucoup plus de créativité. C'est là où maintenant on appelle ça des créateurs de contenu. Avant, bon, on postait des photos plus ou moins jolies et surtout on expliquait beaucoup ce qu'elles voulaient dire. Et maintenant, ça explique pourquoi certains influenceurs, notamment les gros, comme tu dis, avec des messages plus vulgaires, passent moins de temps avec leur communauté ou alors simplement sur des échanges live de temps en temps, et que les micros, eux, ont encore cette connaissance et ce temps à passer avec les communautés, ouais, et sont plus quali.
Alors déjà, si on plonge un tout petit peu plus sur le sujet du micro, la micro-influence, les micro-influenceurs, un peu globalement, hein, si je dois dresser un portrait type, c'est surtout plus de tout, en fait. C'est plus d'authenticité, ça, tu viens de le dire, on va revenir dessus, plus de force de recommandation, pareil, on va détailler ça, et puis plus d'engagement, hein, forcément, les communautés étant moins grosses, ben, y a plus d'engagement, et puis moins de followers. moins de faux followers.
Bah, tu vois, je m'étais fait une liste aussi des atouts du micro-influenceur, donc atouts financiers. Il n'a pas encore de prétention démesurée de rémunération. C'est encore des vraies valeurs.
C'est atout pour les marques, hein, t'as raison.
Oui, oui, atout pour les marques. Hein, voilà. Il a une petite communauté qu'il a durement construite, donc il en est proche, encore proche. Petite communauté et proximité rime avec taux d'engagement fort. Donc ça, c'est super intéressant pour la marque qui va l'utiliser comme véhicule, mais aussi pour ses audiences. Fort taux d'engagement, j'ai mis fort taux d'engagement fort égale forte convertibilité de ses audiences pour ma marque. Il va beaucoup plus adhérer puisque ses audiences sont plus poreuses là-dessus. Et à ses débuts, il sera beaucoup plus focus sur une thématique précise, plus cohérent dans son discours d'influenceur. Et donc, si ma marque correspond à son discours, ça sera davantage intéressant.
Ouais, les micro-influenceurs, ils jouissent aujourd'hui d'un vrai pouvoir de recommandation. Et c'est ça qui est intéressant pour un annonceur. Ils ne sont pas perçus comme des professionnels de la communication à proprement parler. Et leurs abonnés, du coup, les considèrent vraiment quasiment comme des pairs. On va parler de tout ça. Les micro-influenceurs, ils sont aujourd'hui des véritables leaders d'opinion. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Et ça serait un beau mot, d'ailleurs, pour remplacer ce terme d'influenceur. Encore plus que créateur de contenu, je trouve que leader d'opinion, ça veut dire quelque chose. Hein. Les Américains, ils parlent de thought leader, leader d'opinion, qui inspire leur entourage. Hein, et ils impulsent des changements, etc.
On peut en voir deux, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des influenceurs qui sont pas du tout créateurs de contenu et c'est qui ça. Seraient leaders d'opinion, donc c'est un peu deux catégories. Il y a des gens ils font juste des lives. Regarde, bon, Gary Vee il fait un peu du contenu, pardon, mais dans sa manière de parler, il est surtout leader d'opinion.
Oui tout à fait,
c'est un exemple.
Tout à fait, et c'est les micro influenceurs vraiment, ils endossent aujourd'hui, je trouve, très bien cette casquette de leader d'opinion, des créateurs qui se concentre bien souvent aussi sur des niches éditoriales, une spécialité, on va dire. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. Et là où tu vas avoir des méga influenceurs qui vont se concentrer sur la food, côté micro-influenceur, ça va peut-être être la food vegan. Ouais. Quand tu vas avoir des méga influenceurs beauté, tu vas plutôt avoir des micro-influenceurs beauté naturelle ou mode éthique. Et en fait, cette spécialisation, c'est ce qui fait toute leur force de recommandation, leur force de leader d'opinion et aussi leur besoin de créer une valeur additionnelle à leurs audiences. Hein. Il y a vraiment ce besoin de valeur ajoutée additionnelle parce qu'un micro-influenceur, c'est un early adopter. Hein. Il expérimente toujours les dernières nouveautés. Il apprivoise les produits. Il développe aussi pas mal une approche personnelle d'usage sur tout ça, sur son sujet de prédilection. Et cette spécialisation, c'est vraiment la pierre angulaire de sa force de leader d'opinion. C'est ce qui est très intéressant à aller chercher pour les marques.
Et d'ailleurs, quand on suit, pour en avoir suivi plein des personnes qui sont devenues influenceurs, c'est vrai que, comme tu le dis, ils testent des produits et au départ, on voit qu'ils testent des choses, qu'ils adorent essayer des produits, c'est leur passion, mais ils les achètent. Et puis au bout d'un moment, ils commencent à dire « Bon, j'ai la chance de m'être fait offrir cette manette de console. Franchement, c'est ouf, c'est la première fois, ça vaut 50 euros, tu vois. » Et c'est des petits partenariats comme ça. Mais ils commencent en tout cas avec des choses qu'ils aiment. Et au départ, c'est eux qui se créent tout ça. C'est eux qui se font leur valeur et qui achètent leur matériel pour montrer un vrai intérêt.
Alors évidemment, il y a des tonnes de documentation là-dessus. Ouais. Je suis tombé sur une étude de Ivancy qui nous rapporte que 82% des internautes, ils disent être attentifs aux recommandations des micro-influenceurs, spécifiquement, sans doute, parce que ils ont cette spécialisation. En gros, il y a ce rapport un peu verticalisé, horizontalisé, pardon, entre eux et leurs audiences. Et cette intense proximité que les micro-influenceurs, ils ont justement avec leurs audiences, c'est ce qui fait vraiment leur force, hein, une relation qui est beaucoup plus horizontale que sur les méga-influenceurs où tu vas avoir quelque chose un peu top-down, un peu descendant. Là, il y a une vraie proximité avec ces audiences. Hein.
Et là, c'est du coup une relation de confiance.
Exactement. Hein. Un micro-influenceur, déjà, il faut comprendre qu'il connaît parfaitement ses audiences. Elles sont moins grosses qu'un méga-influenceur, donc il est davantage... Et puis surtout, il interagit avec eux, hein, sa communauté. Il l'a construite notamment dans l'interaction. Donc, cette proximité vraiment forte, soutenue entre le micro-influenceur et ses audiences, c'est très, très intéressant pour les marques. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas juste un partenariat avec un micro-influenceur entre un micro-influenceur et une marque, pardon. C'est pas juste une histoire de « tiens, je te pousse un produit, je fais un placement de produit ». Il y a une logique de cooptation et cette cooptation, elle a une vraie valeur intrinsèque.
Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé là ça me vient, mais c'est pas parce que, donc on parle de micro-influenceurs, c'est pas parce qu'un compte va avoir donc entre 5000 et 50 000 abonnés que vous pouvez totalement vous dire qu'il va bien prendre le temps de tester, d'expliquer votre produit, de faire un beau discours. Il y en a aussi beaucoup là-dedans qui font pas attention, donc faut faire bien gaffe.
Oui, bah, dans ce cas-là, choisissez mieux vos influenceurs.
Non,
j'ai
non,
envie
non,
de
non
dire.
Mais je trouve ça important parce qu'on peut se dire, OK, micro-influenceur, c'est trop bien, j'y vais. Mais attention, il y a quand même un travail. Mais c'est vrai que c'est, là-dessus, on est d'accord. Il y a beaucoup plus de confiance, de tests, de précision et de proximité avec les audiences.
Et je suis tombé pareil sur une étude. Je vous mets les liens de toutes ces études. Une étude Single Grain qui nous dit que 92% des consommateurs qui sont interrogés accordent plus de crédit aux recommandations de leurs pairs qu'aux messages diffusés par les marques, évidemment. Et à ce titre, du coup, les micro influenceurs, ben ils ont une force d'influence qui est plus intéressante, encore une fois, que le méga ou le macro influenceur qui a plus de 100 000 abonnés, parce qu'il est plus proche de lui, il est plus proche de ses pairs. Hein. Ça, c'est vraiment le truc. Ouais. Et ça, Instagram, il l'a bien compris, hein, puisqu'on, si on parle d'Instagram, puisque petit à petit, ils étoffent leurs outils pour que nous, on puisse actionner des campagnes d'influence. Il y a pas mal d'outils qui sortent, avec un que je trouve très cool, qui est tout neuf, là, hein, qui vient de sortir, qui est l'apparition de la fonction de post collaboratif sur Instagram.
Ouais, les post collaboratifs. Donc la possibilité soit pour une marque, soit pour un influenceur, soit pour deux influenceurs de partager ton post. En gros, c'est la fonction de cross-post Facebook où tu partages ton post en direct avec une marque. La marque ou l'influenceur bénéficie des chiffres. Donc en fait, il bénéficie de cette portée, de l'influence de l'autre mutuelle en fait, tout simplement. Ça te permet d'avoir une beaucoup plus grosse exposition.
Ouais. Là, pareil, hein, je vous mets un petit lien si vous voulez retrouver comment faire ça. C'est vrai que c'est tout bête à faire, mais si j'ai suivi une marque et j'ai un certain nombre de campagne de micro-influence en cours, très intéressant de partager ses audiences. Et puis, ça élucide aussi quelque chose qui est un peu compliqué aujourd'hui dans les logiques de partenariat de marque, quand on met en place des activations, qui est la remontée de data. Parfois, il y a un peu d'échange, c'est un peu touchy. Vas-y, envoie-moi tes stats, j'aimerais bien vérifier que ton compte est si performant que ça, etc. Là, en partageant tes audiences, du coup, en ayant le même rapport de stats, tu as une vue plus globale de l'action d'influence. Hein, ça, c'est
il y avait déjà des systèmes de collaboration, mais là, c'est ces fameux deux noms côte à côte qui sont écrits en haut sur les posts Insta depuis 3 semaines.
Voilà, fonction native maintenant d'Instagram. Hein. Autre truc intéressant, très intéressant même, c'est la fonction Instagram Shopping from Creators qui te permet de mettre à disposition d'un micro-influenceur ou d'un influenceur un accès à ta boutique Instagram Shopping de marque. Donc, tu es une marque, tu as une boutique Instagram Shopping.
Tu marches sur Facebook aussi, je crois.
Je crois aussi, ouais. Donc, toi, tu es une marque, tu as une boutique Instagram Shopping qui te permet, tu sais, de taguer tes posts et d'avoir ta petite fiche produit dans Instagram. Et là, tu vas pouvoir mettre à disposition ces fiches Instagram Shopping de tes micro-influenceurs et leur dire, en fait, quand tu parles de mon produit, quand tu le portes, quand tu veux en parler en post, en story,
tu peux le taguer toi
en reel, et tu peux le taguer toi aussi.
J'en ai pas vu beaucoup, moi, de ça. T'en as vu, toi, des...
Pas des masses, mais c'est tout neuf hein, aussi. Hein, faut bien comprendre ça.
Et ça permet aussi, ou permettra de l'intégrer dans les live shopping.
Tout à fait.
De pouvoir dire, attention, je vais vous balancer un produit, il va apparaître en bas.
Donc voilà, Instagram, ils sont pas dupes, hein. Ils ont vu effectivement que ces micro-influenceurs, ils prenaient du poids et ils nous offrent des outils qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de vraiment fluidifier la relation entre mes influenceurs, mes micro-influenceurs et ma marque. Hein. Ce qui me semble encore plus intéressant que toutes ces techniques d'influence, de relais,
de partenariat,
de portée additionnelle, c'est comment le micro-influenceur est et peut devenir un émissaire des consommateurs auprès des marques. Ça me semble absolument passionnant parce que les micro-influenceurs, ils permettent aux marques qui les utilisent bien et qui travaillent bien avec eux d'obtenir eh bien, des insights super précieux, des idées créatives parfaitement alignées avec leurs audiences cibles, peut-être aussi des nouvelles formes d'usage de leurs produits. Ça, c'est quand même très, très intéressant. Hein.
Ouais, je viens de penser à une forme justement d'usage. C'est vrai que quand on est une marque, on va acheter un influenceur, on va acheter une campagne d'influence, on pense tout de suite à booster un nouveau produit ou booster une grosse campagne qui est déjà mise en place. Mais peut-être que sur ces budgets-là, on pourrait simplement, puisque je parle à un fan de pêche qui a que des abonnés pêcheurs hyper carrés, hyper connaisseurs, peut-être qu'il peut simplement demander à ses audiences qu'est-ce que vous pensez de ce produit-là.
Qu'est-ce que
vous pensez de ça plutôt que ça?
Ouais, parce que ce qui se passe, c'est que la proximité qu'un micro-influenceur a avec son audience, elle est passionnante pour une marque.
C'est un panel conso, en fait, mais en dehors de la marque.
C'est un panel conso en dehors de la marque. Et surtout, l'échange que le micro-influenceur a avec sa communauté, ça sera jamais celui qu'une marque aura avec ses audiences.
Là, il est totalement honnête, quoi.
Il est honnête, il est clean. Et surtout, il est dans une extrême transparence.
Ouais.
Donc, ça permet de voir sortir beaucoup de choses. Il y a un exemple très intéressant, justement, de marque qui travaille la micro-influence. Et c'est la marque Gémeaux. Tu sais, cette marque. de prêt-à-porter.
Gérard et Monique, je crois. C'est une histoire.
Ah bon, c'est ouais, ça. Ok, d'accord. Genre. Marrant. Et oui, cette marque, elle s'est vraiment faite une spécialité en matière d'influence marketing. Alors, ils font aussi de la méga-influence, etc. Mais sur le sujet de la micro-influence, ils sont plutôt pointards. Et ils proposent notamment des cartes blanches à des micro-influenceurs qui proposent leur look. En fait, ils ont justement une ribambelle comme ça de micro-influenceurs à qui ils leur disent « Montre-moi ton look avec nos vêtements. » Et puis, ils utilisent évidemment ces posts, ces contenus pour nourrir la prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Donc, les micro-influenceurs, ils rapportent là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rapportent une caution mode, une caution d'usage, une caution aussi de mix and match, tu vois, des fringues qui va au-delà de la marque. Et ça, c'est très intéressant. La marque, elle collabore aussi avec des influenceurs de façon plus précise sur des sujets où elle manque de légitimité à aller. Par exemple, ils ont fait un partenariat passionnant avec Lala Misaki sur le sujet des grandes tailles. Et là, c'est vraiment une logique de co-création avec cette influenceuse et la marque de dire, on veut travailler ce sujet grande taille. Quel retour tu peux nous faire de ta communauté ? C'est une créatrice de contenu qui est très identifiée et qui a une communauté qui partage ce centre d'intérêt de la mode grande taille. Et donc, ils se sont vraiment nourris de son retour d'expérience. Même chose avec @sweetie, qui est une créatrice de contenu qui parle aussi de mode et qui, elle, avec elle, ils ont bossé la problématique des petites pointures de chaussures en dessous. Inférieur à 35. C'est très intéressant de voir comment cette co-création avec des micro-influenceurs qui connaissent parfaitement leur communauté, qui ont déjà eu de nombreux échanges autour de ces logiques, de ces centres d'intérêt, sont mis à profit par les marques.
Au final, c'est des communautés de niche qui leur permettent d'atteindre, eux, des secteurs de vente de niche.
Exactement. La communauté dans la communauté, ouais. C'est très intéressant, je trouve, quand on commence à utiliser la micro-influence dans cette direction. Évidemment, plein de choses à dire sur ce sujet de la micro-influence. Évidemment, il y a des plateformes, comme pour simplifier la vie. Juste un petit passage là-dessus. Qui dit explosion de la micro-influence dit derrière plateforme des sortes de marketplace.
Voilà, il y a plein de méthodes. Ça dépend quel type de campagne on souhaite faire. Là, on parle plutôt, on va pas parler spécifiquement de Goodwill, par exemple, d'envoi de produits. Ça, c'est un peu en dehors de cette émission, mais il y a des plateformes pour ça. Sur la mise en relation directe avec les influenceurs et l'intérêt de ces plateformes, c'est d'avoir justement ces fameuses stats remontées sur la performance d'un poste. On a Ivancy qu'on utilise, nous d'ailleurs aussi.
Ouais, Ivancy, ouais, qu'on utilise. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Callsquare, il y a Reach, etc. Qui font aussi très bien le boulot. Donc, à vous de trouver la plateforme. Et c'est vrai, effectivement, que ça peut te permettre de centraliser en un même espace tes campagnes de micro-influence.
Et puis, la prise de contact.
La prise de contact qui est complexe, évidemment. Donc là, ça te permet de simplifier tout ça.
On a vu évoluer ces outils. Nous, il y a 4 ans, quand on essayait de les contacter, on avait juste 3 influenceurs à chercher. Par contre, juste pour la prise de contact, c'était
extrêmement.
Bonheur.
Ça a simplifié vraiment la donne. Allez, juste un petit détail pour terminer. Attention, un micro-influenceur, ça se paye. Et oui, il faut le dire, ça se rétribue, bien sûr. On en avait parlé de façon très directe, c'était dans l'épisode 654 du podcast Le Super Daily. Pareil, si vous voulez aller réécouter, je vous mets le lien vers cet épisode dans les notes de ce podcast. Combien ça coûte ? Pour un micro-influenceur, il faut envisager un budget allant de 200 à 1000 euros par poste. Voilà, grosse fourchette qui va vachement dépendre peut-être de la niche, peut-être de savoir si l'influenceur va aussi faire de la création de contenu, donc va être créateur de contenu, sa personnalité, etc., etc. Il y a plein de choses de ce que vous lui demandez. Mais en attendant, ça se paye. Évidemment, c'est fini l'influence marketing où on dit, vas-y, je te fais comme ça, je te mets en avant aussi, c'est bien pour toi.
Non, ça n'existe plus. Et ce podcast est aussi un message à l'avenir. Faites pas les rapaces, clairement, vous avez bien compris, ces influenceurs, ces micro-influenceurs, ils sont hyper quali, ils ont beaucoup de choses à vous apporter. Alors bien sûr, on peut négocier gentiment en disant est-ce que tu peux envoyer un sondage à ta communauté ? Il y a plein de choses.
C'est une prestation de service, donc elle peut se discuter, on peut trouver ensemble la meilleure formule, mais t'as raison.
Il y a beaucoup à apporter. L'exemple de Gémeaux, il est flagrant, franchement. Il y a énormément de savoir à aller chercher chez eux.
Exactement. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur la micro-influence. On aurait pu écrire une thèse. Peut-être que certains, sans doute que d'ailleurs, que certains l'ont fait.
Oui, il doit y en avoir.
Voilà.
C'est Gérard et Simone. Pardon. C'est pas Gérard et Monique. Gémeaux.
Gérard et Simone. Voilà. Ok, d'accord. merci pour ce retour. Les amis, si vous souhaitez continuer à échanger avec nous sur ce sujet, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. @supernatif. On est partout là où vous êtes, on va dire.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, où vous voulez.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
À demain, bonne journée, amusez-vous bien,
voilà,
c'était un plaisir.
Tout ça, merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde.
Allez, ciao.
Ciao.